Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Jean-François
Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord.
Thomas Mulcair.
Je te donne 100% raison.
La rencontre.
C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou.
La rencontre. Lisée. Mulcair.
Jean-François, tu connais bien la société américaine, tu as vécu là-bas, tu as été correspondant et tu as écrit un excellent livre dans l'œil de l'aigle sur les États-Unis. Qu'est-ce que ça te dit, ce qui s'est passé hier?
En fait, ce qui est vraiment... ahurissant, c'est le rythme avec lequel les fusillades s'accumulent. Chaque année, il y en a davantage. Cette année, il y en a 50% de plus que l'an dernier. On apprenait que les morts par arme à feu sont maintenant la première cause de décès des enfants. La première cause de décès des enfants. C'est quand même ahurissant. La dichotomie entre la volonté des Américains de mieux contrôler les armes et leur incapacité à le faire par leurs élus au Sénat et à la Chambre des représentants, c'est énorme. Il y a 90% des Américains, dont une majorité de républicains, qui sont pour un plus grand contrôle des armes à feu, mais on n'arrive jamais à avoir une majorité chez les élus. Alors, tu vois, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Évidemment, ça tient au financement des partis politiques ou des candidats par le lobby des armes à feu. Mais quand on a une différence aussi grande entre la volonté populaire qui se referme à chaque fois qu'on a un autre massacre, puis c'est de plus en plus fréquent, et l'incapacité de l'État de gérer ça, ben, il y a quelque chose de brisé dans le système là, qui est profondément désolant.
Tom, on pensait qu'au lendemain de Sandy Hook, 20 enfants avaient trouvé la mort. On pensait que ça bougerait. Absolument pas.
Oui, puis il faut pas être trop complaisant. Nous, on a quand même eu le Polytechnique, puis on a des gens qui se font tuer ici, puis on a de plus en plus de problèmes d'armes à feu, généralement. Ce qui m'a bouleversé était une scène que j'ai regardée hier. C'était des policiers à l'extérieur en train de jaser. Il y a une vingtaine de petits enfants qui viennent les tuer, puis c'est peut-être leur boulot qu'ils doivent avoir une carapace, mais moi je sais qu'il y a des gens qui vont avoir vu cette scène-là, que ce soit les ambulanciers, les médecins, les autres profs, les policiers et policières, qui vont rester marqués le reste dans leur vie. Donc, quand il y a un événement comme ça, Jean-François a fait un excellent travail de donner les statistiques, l'augmentation cause numéro un de décès chez les enfants, mais c'est en cercle concentrique autour d'un événement comme ça. Il n'y a pas des douzaines de vies qui vont être affectées, c'est des centaines, voire des milliers de vies qui vont être affectées, les proches, les familles de chaque personne qui va subir un choc post-traumatique et ainsi de suite. Puis, je ne sais pas pour toi, Richard, la seule manière que j'arrive à mettre un exemple dans ma tête, c'est de dire, c'est comme tout le monde, là, à mon âge, j'ai eu des amis, des proches, des gens qui ont connu des problèmes d'alcool, de drogue, de santé mentale. Puis, avec d'autres membres, d'autres proches, d'autres gens qui les aiment, tu essaies tout ce que tu peux.
Oui.
Pour venir en aide, parce que tu dis, ça peut pas continuer comme ça. Sa vie va être complètement gâché, et il faut l'aider tout ce qu'on peut. Moi, je sens comme ça, vis-à-vis des États-Unis, comme presque tout le monde, j'ai des parents proches aux États-Unis, j'y vais souvent, je suis allé très souvent, et je me sens cette proximité, parce que c'est à 90%, c'est très similaire comme culture, comme manière de vivre, et ainsi de suite. Puis j'ai juste envie de mettre mes bras autour des épaules des États-Unis, je sais que ça paraît curieux, là.
Je comprends.
Et de dire, you've got a fucking problem. Tu sais, il y a quelque chose qui marche vraiment pas. Puis tous les gens qui vous aiment veulent tout faire pour que vous puissiez vous aider, parce que ça se peut pas que vous continuez comme ça à vous faire mal.
Mais la dislocation du lien social, Jean-François, c'est important, là. Les gens ne font plus partie d'une communauté aux États-Unis.
C'est vrai, c'est important. C'est pas un phénomène seulement américain, c'est un phénomène mondial. Hein. L'isolement, il y a un moment où en Grande-Bretagne, il y avait un ministre responsable de l'isolement pour essayer de faire en sorte de créer du lien, surtout chez les personnes âgées. Donc, c'est un phénomène mondial, mais seulement aux États-Unis se traduit-il par une accumulation de fusillades. Il y a un pays qui avait un problème avec des fusillades, c'est l'Australie. Et eux, ils ont pris la décision de racheter, d'interdire les armes et de toutes les racheter. Et c'était très, très controversé. Il y avait un lobby des armes là aussi, mais ils ont réussi à réduire considérablement le nombre de fusillades. Ben, c'est sûr que lorsque tu as plus, aux États-Unis, il y a plus d'armes que de citoyens. Plus d'armes que de citoyens. Alors, c'est sûr que lorsque tu as une personne qui est au bout de son rouleau, qui saute sa coche, si c'est facile d'avoir une arme, ben, ça va démultiplier l'ampleur de sa détresse. Si c'est difficile d'avoir une arme, ben, au moins, il va avoir une occasion de moins de créer le chaos autour de lui. Alors, c'est sûr que la solution n'est pas simple. Effectivement, avec les problèmes de santé mentale, d'isolement, etc., sont multifactoriels, mais quand même, je veux dire, il y a un problème américain. Tom a raison, c'est comme on dit, on va faire une intervention. Un certain nombre d'amis, on va demander à notre ami en détresse de venir, puis on va faire une intervention. Il faudrait que les nations fassent une intervention auprès des États-Unis.
Mais comme toute intervention, il faut qu'à la base, parce que si la personne dit non, j'ai pas un problème, c'est voué à l'échec. Il faut que les gens qui l'aiment le convainquent qu'ils veulent son bien et qu'ils puissent accepter. Puis après, cette réalisation, on peut agir. Aux États-Unis, j'ai bien aimé la statistique qui était donnée tantôt. Les individus, les républicains individuellement, sont pour un meilleur contrôle. Mais pas les élus, parce qu'ils dépendent trop de l'argent donné par les producteurs d'armes à feu. C'est une situation qui sort les pires éléments du système politique américain et qui produit un résultat où des bambins sont tués à bout portant parce qu'à 18 ans, on a le droit d'aller se chercher des armes automatiques. C'est un non-sens.
C'est un non-sens. Jean-François, écoute, je veux revenir sur ta chronique du Devoir aujourd'hui, où tu dis que le gouvernement du Québec devrait poursuivre les commentateurs canadiens-anglais qui disent des faussetés sur la loi 96, parce qu'on sait qu'il y a plein de faussetés qui circulent, et tu dis qu'on devrait même les poursuivre. T'es vraiment sérieux là-dessus?
Oui, ben je suis sérieux. Je pense que d'abord, il faut que ce soit des individus. Ça peut pas être le gouvernement, donc François Legault, Simon Genet-Barrette. Pourquoi? Parce que dans Globe and Mail, Andrew Coyne, qui est le chroniqueur le plus crédible dans le quotidien le plus lu, le plus sérieux, lu par non seulement l'élite canadienne, mais la diplomatie internationale et les faiseurs d'opinion à Washington, on lit Globe and Mail quand on veut savoir ce qui se passe au Canada. Et lorsque lui écrit qu'il sera interdit avec la loi 96 à un médecin de parler anglais à son patient, ou n'importe quelle langue, c'est un mensonge éhonté. C'est un mensonge absolu. Il a la responsabilité de le savoir, parce que les chroniqueurs peuvent dire, peuvent exagérer, peuvent piquer des colères, mais ils peuvent pas dire le contraire de la vérité. Il a écrit ça samedi, après une opération du gouvernement québécois pour contrer cette désinformation. Et donc, le dommage, il est considérable. Il est considérable. Alors, en termes de message, de communication, comment envoyer un contre-message très fort? C'est pas en ayant une correction dans un bas de page, c'est en disant au monde, à la diplomatie, aux journalistes étrangers, écoutez, c'est tellement grave ce qu'il a dit, qu'on le poursuit pour diffamation.
Mais Tom, même dans le milieu de la santé, j'ai vu, il y a même des médecins qui se posent des questions sur l'impact de la loi 96. Ça semble pas être clair, même pour les gens qui travaillent dans le milieu de la santé.
Non seulement des centaines de médecins et d'autres professionnels de la santé ont signé une lettre en ce sens, mais vendredi, une institution hautement crédible dont le seul et unique mandat, c'est la protection du public, c'est-à-dire le Collège des médecins du Québec, son président a signé un papier là-dessus. C'est la première fois de ma carrière, ou comme politicien, ou comme commentateur, je fête mes 4 ans comme commentateur et analyste politique, que j'entends un autre chroniqueur et analyste politique dire « faudrait bien poursuivre les chroniqueurs et analystes quand ils disent quelque chose avec lesquels on n'est pas d'accord ou dont nous, on considère qu'on tient des informations fausses. » Moi, honnêtement, là, le palmarès de Richard Martineau est assez impressionnant devant le Conseil de la presse et ça me fait un plaisir fou à chaque jour en onde avec lui, parce que ça fait partie du game. On peut avoir des opinions contraires, on peut se taper sur la gueule.
Je m'excuse, mais les faits, je fais mes recherches et trouve-moi une de mes chroniques où j'ai des faits qui sont vraiment erronés, comme écoute dans le National Post.
Ce que je suis en train de dire, Richard, c'était exactement le contraire de ce que j'ai voulu provoquer comme réaction chez toi. Au contraire, moi, j'apprécie tes commentaires et tes analyses la plupart du temps, sauf quand je suis complètement en désaccord ou sauf des fois que je trouve que tu dis des choses qui sont le contraire. Ça ne dérange pas.
Écoute-moi. Quand quelqu'un dit, et je l'ai vu et j'ai écrit une chronique là-dessus, quand un commentateur dans un journal dit « il va falloir maintenant parler anglais seulement dans le sous-sol » puis tout ça, puis à un moment donné, là, c'est pris ça pour une réalité pour certaines personnes qui les écoute, c'est Richard, totalement faux. Quand Mordecai Richler disait qu'il y a un propriétaire de pet shop qui avait été mis à l'amende parce que son perroquet ne parlait pas français, c'est une fausseté. À un moment donné, il faut remettre les choses à l'ordre.
Oui. Richard, fausseté pour fausseté, fais-toi un malin plaisir de visionner l'interview de Christopher Skeet, qui est député caquiste, proche conseiller de M. Legault, parce que c'est le seul membre de la communauté anglophone au sein du caucus de la CAQ. Son interview à CTV Question Period dimanche dernier avec Evan Solomon, ce gars-là a dit des choses qui étaient complètement fausses. Et je suis avocat, je travaille dans le dossier linguistique depuis 40 ans, je fais une analyse dans la Gazette aujourd'hui et je renvoie les gens à ça, je donne un autre point de vue et mon analyse est très différente. Mais il y a des choses qui étaient carrément fausses. Lorsqu'il affirme, par exemple, que la loi 96 n'utilise pas de manière globale la clause non-obstant, c'est juste faux. C'est juste faux. La loi 96 utilise globalement et complètement la clause non-obstant pour extraire la Charte des droits. Est-ce que je vais dire aux gens d'aller poursuivre Christopher Skeet?
Bon, je vais
un papier qui dit le contraire de Christopher Skeet.
Je vais terminer avec Jean-François.
Pour établir les faits.
Parce qu'il reste pas de temps. Est-ce que Jean-François, est-ce que tu es un apôtre de la culture de l'annulation, de la censure?
Non, je suis un apôtre de la culture de la responsabilité journalistique. La loi 96 dit à son article 22 que le français est requis sauf dans le cas de la santé, des urgences et de la justice naturelle. La loi sur la santé dit à son article 15 que toute personne d'expression anglaise a droit à des services de santé en anglais. Ça ne peut pas être plus clair. Ça ne peut pas être plus clair. De dire qu'il y aura une sanction pour un médecin qui parle une autre langue que le français avec son patient, une fois que tu as vu ces deux articles de loi-là, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Voilà.
Merci beaucoup à vous deux. On se reparle demain.
Salut,
bonne journée.
À bientôt. Bye.